Nous avons la joie d'accueillir ce matin deux pères qui viennent de loin, qui viennent du diocèse de Porto Novo au Bénin et qui viennent pour le service de notre diocèse pendant plusieurs années. Bienvenue, chers pères, de votre générosité pour nous partager la foi vivante de l'Afrique. Bienvenue aussi aux cheftaines qui viennent aussi généreusement donner une semaine de leurs vacances, oui, pour se former et pour mieux encadrer les jeunes. Et bienvenue à chacun, chacune. Bien sûr, le Seigneur, en vous voyant, sourit, est heureux. Ah, il y en a quelques-uns quand même qui pensent à moi aujourd'hui. Donc, soyez les bienvenus de la part du Seigneur. Aujourd'hui, comme chaque Eucharistie, de toute façon, est importante. C'est le sommet de ce que nous pouvons vivre, cette rencontre avec un Dieu qui se donne, avec un Dieu qui est Père, plus Père qu'on ne peut l'imaginer, un Père qui nous donne la lumière de sa parole et la force de sa vie offerte. Entrons dans cette rencontre qui nous sauve en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. Et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël dans des vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu.
Évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle. Il y a des bonnes nouvelles qui sont pas toujours faciles à accueillir, à entendre, qui sont parce qu'elles sont exigeantes. Mais l'amour authentique est exigeant. Il fut une époque peut-être où on parlait un peu trop souvent, peut-être, des fins dernières. Et pourtant, c'est bien le but de la vie terrestre. Et ce qu'on appelle les fins dernières, qu'est-ce qui va arriver au terme de l'histoire. Aujourd'hui, on est tombé souvent dans l'excès inverse, et on parle rarement des fins dernières. Mais Jésus, lui, en parle régulièrement dans l'Évangile. Aussi, il est opportun, lorsque l'Évangile qui nous est donné en parle, eh bien, effectivement, de se faire l'écho de la parole nuancée, mais forte, de Jésus. Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ? Jésus ne répond pas directement à la question posée, comme souvent d'ailleurs, soit parce que l'intention de celui qui pose la question n'est pas honnête, soit parce qu'il n'est pas utile de répondre directement à la question, et c'est bien ce qui se passe ici. D'une part, parce que pour lui, la seule question importante n'est pas combien seront sauvés, mais comment être sauvés. Et d'autre part, répondre directement à la question posée serait démobilisateur, quelle que soit la réponse, dans tous les cas. Alors, avec sagesse et habileté, Jésus répond « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Autrement dit, Jésus ne cache pas la difficulté qu'il y a à être sauvé. Dans un autre passage relatif à l'attachement au bien de ce monde, où Jésus a des paroles extrêmement fortes et exigeantes, les apôtres s'étaient exclamés « Mais alors qui peut être sauvé ?» Si c'est aussi difficile que de faire passer un chameau par un trou d'aiguille. Et Jésus de répondre, pour les hommes, c'est impossible. C'est quand même fort ce que dit Jésus. Pour les hommes, c'est impossible. Alors, ne nous endormons pas sur ce que nous pensons être nos mérites, notre valeur. Non, aux yeux de Dieu, l'homme n'est jamais à la hauteur du salut. Tout est gratuit. Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. On peut éventuellement apprendre l'anglais sans peine. Alors, quand on voit aussi le chinois sans peine, évidemment, on se pose des questions, déjà. Mais alors, le paradis sans peine, ça, c'est carrément impossible. C'est ce que Jésus nous dit. Beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas. Si le ton de Jésus est menaçant, c'est parce qu'il se rend compte de ce que trop d'hommes et de femmes, pour faire aujourd'hui, trop d'hommes qui connaissent pourtant la volonté de Dieu, sont négligents. Ils s'imaginent pouvoir aller au ciel sans un effort sincère de conversion. Illusion, grave illusion. Ne cherchez pas dans la bonté de Dieu un prétexte à la négligence, disait au IVe siècle saint Basile. Oui, on entend assez souvent, oh, le bon Dieu, si bon. Et on le disait déjà, parce que saint Basile commence par ça au IVe siècle. Le Seigneur est si bon, il pardonne tout. Bien sûr qu'il pardonne tout. Mais est-ce que notre cœur est prêt à reconnaître qu'il a besoin du pardon immense de Dieu? C'est ça la question. C'est lorsqu'on s'est endurci toute sa vie à faire la sourde oreille aux appels de Dieu, c'est témérité de penser qu'on sera en mesure de reconnaître sa grande misère et d'avoir recours à la miséricorde. Ne cherchez pas dans la bonté de Dieu un prétexte à la négligence. Il y a négligence si l'on se contente d'une pratique religieuse extérieure, sans engagement personnel, du cœur profond, sans conséquence dans la vie de tous les jours, si l'on continue à s'accommoder avec le mal. L'hypocrisie, ou du moins la négligence, effectivement, est de tous les temps. À cela, le Seigneur répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Et si Jésus s'adressait bien sûr à ses contemporains et à ses compatriotes qui, effectivement, étaient ce peuple privilégié parmi tous les autres qui avaient eu ces grâces immenses d'être choisis et de recevoir les lumières de Dieu, eh bien maintenant, aujourd'hui, c'est nous, ce peuple super privilégié, qui avons tout ce qu'il faut, qui avons l'autoroute, pour reprendre les mots de... comment s'appelle-t-il déjà ? Ce petit jeune, voilà, l'autoroute du ciel. Jésus, nous avons l'autoroute pour aller au ciel. Et tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ne connaissent pas Jésus, eh bien, par la miséricorde de Dieu, y accéderont autrement. Mais nous avons l'autoroute et nous avons l'obligation de prendre l'autoroute, pour une fois. Oui, à ceux-là qui négligent, qui méprisent en quelque sorte les avertissements du Seigneur, et bien le Seigneur dira, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Et Jésus le poursuivre avec sévérité, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Grave avertissement. L'évangile de ce jour se termine cependant, ça ne doit pas nous faire oublier ce qui précède, se termine cependant par une perspective très positive. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Dans un autre passage, Jésus parle des serviteurs envoyés sur toutes les places et les chemins du monde pour que la salle des noces soit remplie. C'est ce même désir de Dieu qu'Isaïe voyait déjà. « Je viens rassembler les hommes de toute nation et de toute langue. Ils viendront et ils verront ma gloire. » Bien sûr, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ces milliards et milliards et milliards d'êtres humains qui ont peuplé la terre, ils ne sont pas venus par hasard. Aucun n'est venu par hasard, comme nous le rappelait le Père François cette semaine. Chacun de nous, chaque être humain a été voulu personnellement par Dieu pour la vie éternelle avec lui. Je n'ai pas présenté le Père François Schaeffer tout à l'heure, parce qu'il vient souvent nous rendre visite et que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, mais il est vrai que les guides, du moins les cheftaines, pardon, ne le connaissent pas, et certaines viennent peut-être de Paris, où le Père François exerce son ministère à la chapelle Notre-Dame du Lys, dans le 15e arrondissement, donc pour les parisiennes, voilà, avis aux amatrices. Oui, bien sûr, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais il ne forcera pas, parce qu'il nous aime, parce qu'il respecte notre liberté. Cette promesse de salut universel s'accomplit peu à peu dans l'Église, oui, bien sûr. Et quand on a la déprime, ben regardons la croissance de l'Église depuis 2000 ans. C'est quand même encourageant. Oui, dans l'Église, dans laquelle une multitude de peuples se rassemblent sur toute la terre. Et ils confessent la même foi et sont animés par le même Esprit Saint. En écho à l'Évangile, la lettre aux Hébreux encourage à supporter les épreuves. En effet, la porte étroite de l'Évangile, ce sont entre autres les épreuves, les souffrances, et donc aussi les tentations de renoncer, de se décourager. La vie est un combat. « Accepte-le », disait sainte Mère Thérésa. Oui, quelle combattante. C'est extraordinaire, les saints. Ils nous boostent. Et si on les regarde de près, eh bien, voilà, on sent bien qu'on n'arrive pas à la cheville. Alors, il ne s'agit pas de copier, comme nous a rappelé le pape, mais il s'agit de s'inspirer de leur fidélité, de leur foi, de leur générosité, pour vivre notre vocation. Unique, chacun. Oui, la vie est un combat, accepte-le. L'auteur de la lettre aux Hébreux voit même dans les épreuves une occasion de progrès, de maturation. Quand le Seigneur aime quelqu'un, nous disait l'auteur, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Non pas que le Seigneur se plaise à nous envoyer des épreuves. Il a autre chose à faire. Le bon Dieu, c'est pas lui qui envoie des épreuves. Non, les épreuves, elles viennent justement de notre monde blessé par le péché. Mais il permet les épreuves. Et pourquoi les permet-il? Lorsque l'épreuve est comprise ainsi comme permise par le Seigneur, par son amour paternel, en vue de notre purification et d'une union plus profonde avec lui, alors elle est un soutien, un regard positif pour la porter et la traverser. En nous rappelant notamment ce que Jésus disait à saint Paul dans une situation semblable où il se plaignait, il grognait, « Seigneur, j'en ai marre d'avoir à vivre ça. » Eh bien, Jésus de lui répondre, « Ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, aie confiance en moi, ce que je fais, bon sang. Ma grâce te suffit, ma puissance se déploie. » Dans la faiblesse, comme les parents permettent aussi parfois à l'enfant de faire des expériences douloureuses pour lui permettre de prendre conscience que, ben oui, il se trompait. Et c'est eux qui avaient raison. Le Seigneur nous accompagne en toute épreuve. Ça, c'est une certitude pour nous permettre justement de la traverser, d'en tirer des fruits positifs. Elles sont nombreuses, vous les avez entendues comme moi, les personnes qui peuvent témoigner combien l'épreuve leur a ouvert les yeux et ouvert à une vie nouvelle qu'elles ne voudraient pour plus perdre pour tout l'or du monde. Je termine. La porte étroite, c'est Jésus lui-même. « Je suis la porte », dit Jésus dans l'évangile de saint Jean, « si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ». Entrer par la porte qu'est Jésus, c'est le suivre, bien sûr. Dans sa vie, dans les exemples de vie qu'il nous donne, et aussi dans sa mort. dans son offrande ultime, dans son abaissement, son offrande totale, pour partager un jour sa gloire. Il n'y a pas d'autre chemin. Amen.